Allez-y.
Non, une seconde, je compte.
Alors, 3, 4.
Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, vous l'avez bien compris, donc un petit peu plus court cette semaine. On vous souhaite donc cette bienvenue avec Frédéric Danhé qui va nous rejoindre pour parler justement d'Europe et peut-être un petit peu différemment. À la technique, Anthony Thomasson et Hélène Langlois, Stéphane Combe est notre assistant, je n'oublierai pas Albert Houck et Christophe Imbert réalisent l'émission. Alors une petite humeur, car en début de semaine, les abords de l'Assemblée nationale ont connu un bien étrange rassemblement. Deux caravanes de la Confédération paysanne, l'une partie de Dordogne, l'autre de la Drôme, effectuaient leur jonction devant le Palais Bourbon. Alors les paysans français auraient-ils abandonné une sédentarité plurimillénaire pour renouer avec le nomadisme? Point du tout. Leur présence dans la capitale se trouvait dictée par la loi d'avenir agricole dont la discussion est en cours. Projet de loi qui s'efforce de doper un système productiviste moribond tout en tentant de donner des gages à une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de lancer l'agroécologie à plus grande échelle. Les amoureux du grand écart seront en tout cas comblés. Et si le législateur aboie parfois, eh bien la caravane passe toujours. La Confédération paysanne insiste notamment sur un aspect pour le moment étrangement passé sous silence dans la loi, à savoir les préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP pour les intimes. Aujourd'hui, ces PNPP, purin d'ortie en tête, sont toujours considérés comme des pesticides, à l'inverse de ce qui se passe en Espagne ou encore en Allemagne. Autrefois, celles et ceux qui utilisaient le pouvoir des plantes finissaient sur le bûcher. Aujourd'hui, on leur envoie la répression des fraudes. Les mœurs évoluent, mais la méfiance demeure. Car pour commercialiser ces préparations, il faut passer par une procédure européenne assez ruineuse, vous excuserez du pléonasme, procédure donc d'autorisation de mise sur le marché qui n'incite pas évidemment à sortir le pays du tout chimique. Difficile en effet, lorsqu'on n'est pas une multinationale de l'agrochimie ou bien en tout cas une grosse société, d'aligner plusieurs centaines de milliers d'euros pour au final vendre de la décoction de prêles ou de purins de fougères. D'ailleurs, l'autorisation de mise sur le marché est tellement une mesure adéquate que l'on ne compte plus les pesticides ayant obtenu la dite autorisation et qui ont néanmoins été retirés de la vente, les régents et autres gauchos nous le rappellent. Bon, bien sûr, c'est sûr, il faut en général quelques années de dégâts sur l'environnement pour y parvenir. L'agriculture, finalement, c'est surtout une question de patience. Au menu de cette émission, donc, il y aura une grande plage de nature pour nos amis bretons et les autres. Évidemment, on va aller sur le sommet, sur les monts, sur les sommets de la Bretagne. Moins de 400 mètres d'altitude, oui, mais un univers incroyable, les monts d'Arrée. Dans le Finistère, à la fois c'est la fin de la Terre et en même temps c'est le début d'un monde. Donc je vous propose une belle balade environnementale sur ces monts d'Arrée avec différents intervenants. Et puis bah, l'autre sujet, ce sera l'Europe à notre manière. Cher Frédéric Danhé, bonjour à vous.
Bonjour Denis Chessou.
Qu'on va se dire, on va peut-être pas tout détailler là maintenant, mais enfin, qu'est-ce qu'on va se raconter un petit
peu. On va se raconter comment l'Europe influe sur notre vie quotidienne, qu'est-ce qui, dans notre vie quotidienne, dépend de l'Europe, puis on verra que l'Europe décide quand même pas de tout. Les États ont gardé leur libre interprétation des textes, et c'est aux États et aux instances administratives inférieures aux États, c'est le principe de subsidiarité d'adapter les textes européens, les directives européennes. L'Europe ne fait pas tout, mais l'Europe indique, disons, des directions à suivre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Alors, ce que je vous propose, c'est de débuter en musique, parce que là, on a quand même eu pas mal de paroles, mais hein, avec ce côté européen, une femme qui maintenant chante en espagnol, c'est Catherine Ringer, oui. Plaza Francia, Catherine Ringer, la mano en cima, sur France Inter, choisie par Thierry Dupin, Europe et les Monts d'Arrée. Dansez mon amour.
Yo te amé, me entregué, no voy. Ya lo sé, desmedida y dispuesta a jugar hasta el fin, apostando la vida al amor. No te lo voy a perdonar, vos ya sabes, y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez. Alumbraba el jardín. Hay una frontera que no hay que cruzar. Después no hay manera. Quiero aquí a esperar a ver si sucede otra vez, otra vez, otra vez.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Et c'est parti avec vous Frédéric Danhué, donc en direct, nous parlons donc sur France Inter aussi de cette Europe. Ce que je vous propose, c'est de retrouver peut-être Jean-Marie Pelt, parce que cet homme-là donc, a travaillé avec Robert Schuman, on le sait, et puis il fait partie des trois pays, autrement dit, là vraiment dans le nord-est, et la frontière de l'Allemagne n'est pas loin de chez lui, de la France bien sûr il y est, et puis du Luxembourg. Alors Jean-Marie Pelt, bon, bah, considère aussi que ce merveilleux libre-échange, donc une espèce de poulailler absolument incroyable qui est devenu effectivement l'Europe, pose quand même un certain nombre de soucis, que cette Europe monétaire, d'accord, mais c'est pas le tout dans la vie. Et d'un point de vue environnemental, donc Jean-Marie Pelt, quel a été, donc quel est l'apport de l'Europe dans l'environnement?
Sur le plan écologique, c'est plutôt bien, c'est plutôt mieux que ce qui se passe ailleurs, avec la règle des 3-20, diminuer de 20% les dégagements de gaz à effet de serre, le CO2.
20% d'énergie renouvelable supplémentaire et 20%
d'économie. Le projet Natura 2000 était un projet protecteur de la nature qui a marché. Le projet REACH vise à faire disparaître des molécules suspectes. 500 pesticides ont sauté. Ça, c'est bien. Mais le cadre dans lequel tout ça se fait, qui est un ultra-libéralisme, un libéralisme extrême.
Merci Barroso.
Oui, absolument. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que les Chinois, ils se protègent commercialement.
Les Américains aussi.
Les Américains aussi. Et nous, nous sommes plus Américains que le roi. C'est plus catholique que le pape, comme on dit dans le langage populaire. Et nous laissons petit à petit dépérir nos propres activités parce qu'elles ne sont pas concurrentielles dans la guerre économique. La guerre économique, c'est un mot guerrier, comme on l'a signalé. Donc ceci me concerne absolument, et je pense à Robert Schuman et à Jean Monnet, qui avaient fait une Europe qui démarrait avec la CECA, Communauté du Charbon et de l'Acier, dont les responsables étaient nommés par les gouvernements. C'était donc pas une Europe libérale, tout à fait au début, quand on a voulu éviter que les échanges entre le fer et le charbon aillent vers la fabrication d'armes, qu'on voulait éviter qu'on puisse encore se faire la guerre en Europe. Donc il ne fallait pas que les maîtres de forge puissent vendre leur fer pour fabriquer des canons. Donc on avait inventé un système qui était un système d'une économie relativement administrée. Or, nous sommes tombés dans un libéralisme extrême, sans régulation. Et ça sera encore pire avec le fameux traité entre l'Union européenne et l'Amérique, oui. qui est en train d'être débattue dans le secret, comme toujours, mm-hmm. quand il s'agit...
Alors, on n'en est pas encore aux négociations, on est aux pré-négociations.
Pré-négociations.
Mais qui passent absolument au-dessus des individus et des citoyens.
C'est ce que j'allais dire. Oui, oui. Ça passe au-dessus des citoyens, ça passe même au-dessus des ministres.
Il y aura des conséquences très, très importantes.
Bien sûr. Ça passe même au-dessus de la tête des ministres, oui. sauf ceux qui négocient au Quai d'Orsay. Ce modèle-là est très inquiétant. Mais je pense que cette étape doit être franchie en nous reposant cette fameuse question. Est-ce que l'ultralibéralisme peut être l'idéologie définitive de l'humanité? Et là, je réponds non.
Alors ce traité n'est pas encore signé, loin de là. Peut-être qu'il ne se fera pas, on verra, on a bien compris. Alors Frédéric Denré, donc, maintenant nous revenons aussi, donc, on reste dans le sujet avec cette Europe. Je dirais, pourquoi est-ce important de voter? Quel que soit le vote des gens qui nous écoutent, on n'est pas là du tout pour là-dessus indiquer quoi que ce soit, ce n'est pas notre boulot, mais pourquoi est-ce important de voter?
Et même si l'Europe effectivement est un marché néo, voire ultralibéral, c'est important de voter parce que l'Europe, par ses directives, fixe les conditions de notre qualité de vie. C'est-à-dire l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, peut-être bientôt la qualité des sols, la sécurité dans les voitures, etc. etc. L'Europe, c'est bien ça, c'est notre qualité de vie.
Lorsqu'on dit que l'Europe décide de tout, c'est quand même faux.
Non, c'est pas vrai. L'Europe fixe des directives qui s'imposent effectivement aux États, mais libre ensuite aux États, qui ont d'ailleurs un délai pour le faire, de les transposer dans leurs lois, mais ils ne sont pas obligés de les transposer in extenso. Et puis ensuite, le principe de subsidiarité dont on parlait tout à l'heure, à chaque niveau de décision, ses compétences spécifiques. Tout ça, d'ailleurs entre régions, départements, tant qu'ils existent, intercommunalités, l'État, chaque État. Voilà, l'Europe ne se substitue en aucune façon aux États. Et dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne, on paye ses impôts, on va à la sécu, on va à l'école, on appelle la justice, la police. Tout ça reste du domaine de chaque État. Et l'Europe n'a pas imposé de directive sur ces domaines-là.
L'exemple de la chasse, par exemple.
Alors la chasse, c'est justement le meilleur exemple qui soit. Les chasseurs râlent contre l'Europe. Mais si la France avait appliqué in extenso la directive Habitat européenne, Natura 2000, Jean-Marie en a parlé, il y aurait presque plus de chasseurs en France. La France déroge systématiquement à la directive Habitat en augmentant année après année et le nombre d'espèces et le nombre de jours durant lesquels on peut chasser ces espèces. Je n'ai rien contre la chasse. Force est de constater que la France, si la France était vraiment inféodée à l'Europe, il y aurait peut-être trois fois moins de chasseurs qu'aujourd'hui.
Les transports, que peut-on dire?
Les transports, là, il y a... vous savez, les temps de repos, par exemple, pour les transporteurs routiers ou les chauffeurs d'autocars, ceux qui font plus de 50 km, ça, c'est l'Europe. La concurrence ferroviaire, c'est l'Europe. La concurrence ferroviaire, certes, c'est une idée néolibérale. L'idée, c'est, puisque les compagnies aériennes ne possèdent pas les aéroports, puisque les transporteurs routiers ne possèdent pas les routes, on ne voit pas pourquoi la SNCF posséderait et les gares et le rail. L'idée, c'est ça. Derrière la concurrence ferroviaire, il y a le fret, ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire passer du camion au ferré, au chemin de fer, pardon, et au fluvial. Ça, c'est pas une directive européenne, mais c'est une impulsion très forte de l'Europe. Après, il y a plein d'autres choses. Les doubles coques pour les cargos, c'est l'Europe. La réduction en 2015 drastique des émissions de soufre des bateaux qui accostent en Europe, c'est l'Europe. Et là, ça va être une révolution dans le monde de la marine et ça risque de pousser.
D'autant que 90% de nos marchandises sont transportées aujourd'hui par le fret maritime.
Par des bateaux qui marchent au fioul lourd. Donc l'idée, ce serait forcément, là, l'Europe va imposer de fait ou le diesel en remplacement du fioul lourd ou, et c'est dans les idées de l'Europe, le gaz naturel liquéfié.
Évoquons quand même Reach un peu plus.
Reach. Alors, s'il y a un domaine dans lequel l'Europe, on a dit pour les PNPP dont vous avez parlé, Denis, l'Europe serait en train de les interdire. L'Europe est une contradiction permanente, donc on interdit le purin d'ortie. Et en même temps, le programme Reach, la directive Reach, le système Reach a fait qu'on a beaucoup de molécules extrêmement toxiques qui ont été abandonnées, à tel point que les industriels de la chimie ont du mal à tenir en Europe. Le programme Reach, le système Reach, c'est très simple, c'est très concret. Vous allez dans une grande surface de bricolage, vous regardez au dos des pots de peinture, de solvant, de tout ce que vous voulez, et vous avez une étiquette un peu sur la forme de l'étiquette énergétique qui elle-même vient de l'Europe, et vous avez les émissions entre A et E de composés organiques volatiles qui sont les composés toxiques des produits de déco. Ça, c'était une avancée formidable qui a pratiquement retiré des rayons en moins de 3 ans la plupart des produits qui émettaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de toxines dans l'air intérieur des maisons.
L'obligation d'étiqueter à la fois au kilo et au litre aussi.
Et ben ça, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Chacun le faisait, mais les pays le faisaient différemment. Des pays ne le faisaient pas. Ça, c'est une obligation européenne. Et d'ailleurs, il y a d'autres directives qui vont s'imposer d'ici 2014 et 2016 pour simplifier, tout en informant toujours mieux, avec toujours plus de paramètres, le consommateur. Il y aura une unité et une simplification de l'affichage nutritionnel, notamment, auprès des consommateurs.
L'identification des OGM. Je parle bien de l'identification.
Ça, c'est l'Europe qui s'impose à tous les pays. Chaque pays fait ce qu'il veut pour planter, pour importer ou pas des OGM,
comme le fait l'Espagne.
Voilà, exactement. En Europe, oui. Par contre, l'étiquetage est obligatoire dans tous les pays de l'Europe.
Parlons de l'eau quand même aussi, loi sur l'eau.
Voilà, on va voir ça avec les monts d'arrêt peut-être tout à l'heure, mais il y a une directive nitrate qui s'impose à tous les pays d'Europe, qui impose en fait un niveau minimal de qualité, c'est-à-dire l'Europe regarde les pesticides, les nitrates et le mercure. Et en France, on dépasse systématiquement, notamment en Bretagne, les taux de nitrate.
Même si ça s'est calmé, il faut le dire.
Même si ça s'est beaucoup calmé, il n'en reste pas moins qu'à la fin de 2014, la France, qui a déjà été tensée vertement, notamment au début d'année par l'Europe, risque de payer beaucoup d'amendes parce que la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous selon cette directive européenne.
Et quand nous respirons, nous avons une loi sur l'air.
On a une directive sur l'air qui fait que la France paye chaque année des millions d'euros et va en payer encore plus dès lors qu'on a des dépassements de la qualité de l'air dans certaines villes, ce qui fait, on a déjà beaucoup parlé dans cette émission, qu'un jour ou l'autre, l'Europe interdira de fait le diesel en ville, c'est-à-dire de fait le diesel pour les véhicules particuliers, parce qu'à cause du diesel en ville, on dépasse systématiquement les niveaux européens.
Et enfin, un petit mot quand même aussi sur la pêche. On a énormément de choses à dire, mais quand même sur la pêche.
Ah bah sur la pêche, la politique, là pour le coup, c'est la politique commune de pêche qui impose les quotas, qui impose un contrôle, ce qu'on appelle la sortie de flotte. La pêche, c'est européen et on va vers une réduction drastique de la flotte de bateaux de pêche en modernisant ceux qui vont rester parce qu'il n'y a plus suffisamment à pêcher. Alors après, il y a des directives qui s'appliquent un peu bêtement, comme la future interdiction des filets dérivants qui risque d'interdire de fait quelques pêches côtières, hein, notamment la pêche à la sole ou à la dorade dans le bassin d'Arcachon. Mais encore une fois, les États pourront adapter.
Et on lisait hier soir donc à Verme dans l'Allier, on évoquait cela, c'est-à-dire qu'il y a autant de chiffres d'affaires générés par la pêche qu'il y a autant de subventions qui est allouées à la pêche.
Et sans subvention, il n'y aurait plus de pêche, ce qui donne une idée du modèle économique de la pêche. La pêche n'a plus rien à pêcher.
Alors ce que je vous propose, là on va pas aller dans la Bretagne qui pêche, on va aller dans la Bretagne, enfin pêcheresse, non pas du tout. On va aller dans la Bretagne des hauteurs, dans les monts d'arrêt.
Alors à Brandaret en ce moment, on doit être 18 producteurs et 2 artisanes.
Ouais.
Plutôt dans les monts d'arrêt, après il y en a qui sont un petit peu plus loin. Alors il y a pas mal de producteurs bio.
Et donc voilà. A priori je peux me nourrir, quoi. Enfin, je trouve à peu près de tout.
Ici à l'épicerie, grosso modo maintenant, à part des fruits forcément dans la Bretagne, hein, on est d'accord, on trouve de tout. On a de la charcuterie, on a du pain, du fromage de vache, du fromage de chèvre, de la bonne bière bretonne, du cidre.
Alors Denis, vois-tu cette belle libellule qui approche? Alors celle-ci s'appelle la cordelastère année. Donc c'est une libellule qui vit que dans les roseaux. Alors elle vient de venir se poser sur nous, c'est magnifique. Voilà. Cette belle cordelastère en fait ne vit que dans les ruisseaux, donc dans les eaux vives et les eaux fraîches de Bretagne. Et donc là en fait, à la belle saison l'été, hein, elle va sortir de sa dernière carapace pour venir voler et se nourrir d'insectes dans la lande. Et la tourbière.
C'est un sacré morceau, hein. Elle est grande. Hein,
alors elle est énorme, il faut savoir que les libellules aujourd'hui, ce sont les insectes aquatiques les plus costauds, les plus grands. Hein. On en a connu des plus grands au temps des dinosaures. Il y avait des libellules à 1m50 et là je pense que tu serais parti en courant.
Ah oui,
quand même.
Au sommet de ces monts d'arrêt, moins de 400 mètres d'altitude, vous avez d'un côté la baie de Morlaix, parce qu'il faisait très beau ce jour-là. De l'autre côté, vous voyez assez bien la rade de Brest. Donc, nous sommes dans le parc naturel régional d'Armorique, dans le Finistère. Je vous le disais, le Finistère, c'est la fin de la Terre, on le sait, mais c'est aussi le début d'un monde. Et donc, je vous emmène sur l'échine d'une Bretagne rugueuse, hein, de grès, de schistes stratifiés, plissés, qui défient les vents de Norrois. 385 mètres, on va être au Tuchen Cador. Oui, et là, on a à côté le Yonnelaise, on va y revenir, le roc Trévézel, le roc Trébudon. Et alors, c'est un royaume assez incroyable. Vous avez aussi le mont Saint-Michel de Braspar, avec le saint qui est planqué dans sa petite chapelle, surtout quand il y a beaucoup de vent. Donc on est sur un point culminant, une grandeur qui est usée, qui est un monde d'ardoisière, et qui est surtout une mémoire minérale. Ce lieu est pour une majorité de Bretons un univers qui est voué à l'imaginaire. Une rêverie, si vous voulez, qui est parée d'une puissance surnaturelle. Le mont d'Arrée, c'est le gardien d'un temple, un peu comme Brocéliande. Et je vais vous faire découvrir un homme qui s'appelle Anthony Le Gall, qui est guide nature de la maison de la rivière à Sizun, toujours dans ce Finistère. Donc c'est lui qui nous emmène dans ces monts d'Arrée avec Anthony Le Gall.
Alors nous allons arriver au sommet du Tuchène-Cador, point culminant des monts d'Arrée, historiquement. On arrive à plus de presque 385 mètres. Donc c'est, vous voyez que on sent le manque d'air. Et donc ce point est historiquement le point le plus haut, mais malheureusement la science l'a départagé avec un point voisin, le Rogruz,
qui le
dépasse de quelques centimètres.
C'est ça.
Voilà.
C'est
ça. Donc, mais pour l'homme, du moins l'homme de toujours, ça reste le point culminant.
Ça veut donc dire que les activités ont été limitées ici.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'homme a eu très peu d'impact sur son environnement. On n'a pas d'agriculture, on ne voit pas d'industrie. Ouais. Et puis les maisons, les petits villages, en fait, ils sont vraiment très, 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 très limités, quoi.
Alors on a cette plante emblématique de la lande, que sont les bruyères, qui sont là. Alors là, c'est un ravissement parce qu'elles sont toutes en fleurs, avec ces mauves, avec ces violets, avec plein d'abeilles qui s'en donnent à cœur et à pollen joie, là. Et puis beaucoup de tourbières.
Voilà, en fait, ici, la lande est mixée à de la tourbière. Ouais. On va appeler ce paysage le paysage de lande et tourbière. Donc la lande, c'est plutôt une partie dite sèche. Et la tourbière, ce sera la partie dite humide. Donc cette tourbière, évidemment, regorge d'eau l'hiver, puisque c'est directement lié à la pluviométrie.
Alors si on se retourne, alors là, c'est pas une église qu'on voit, c'est une centrale, parce qu'on est, on n'est pas loin quand même de Brénilis. Ça a été voulu en 1962. Puis en fait, elle n'a pas très, très bien marché, quoi. Elle a servi de centrale expérimentale.
C'était une centrale, on va dire, un prototype en France pour lancer la politique nucléaire. Ici, en fait, cette centrale, aujourd'hui, on est en train de la démanteler. Ouais. Puisqu'on veut, évidemment, on a réussi à faire du nucléaire, mais il faut aussi être capable après de le détruire, ce nucléaire. Ouais. Donc ce démantèlement a commencé en 1995. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne pourra pas être démantelé avant 2030. En fait, cette centrale de Brunis a été la seule construite en Bretagne.
Oui, parce que Plogoff, si Plogoff n'a pas existé, c'est peut-être parce qu'il y a eu Brunilis avant.
Voilà, il y a eu l'épisode Brunilis qui était passé sans concertation des populations locales. Donc on s'était empressé de la faire évidemment dans un lieu naturel où il y avait une faible population. Et ça a été très très violent, Ça a été très très violent. Donc c'est pour ça que les élus et les décideurs locaux et nationaux ont arrêté définitivement la politique nucléaire en Bretagne.
Et derrière, on a des éoliennes.
Tout à fait.
Voilà.
C'est bien ça. Ça, c'est des éoliennes. Donc, aujourd'hui, dans les monts d'Arrée, on n'a pas trop d'éoliennes à proprement parler sur les monts d'Arrée, puisque c'est un site évidemment protégé, remarquable.
Ouais.
Donc, on ne voudrait pas que le paysage soit envahi d'éoliennes. Mais en limite de monts d'Arrée, on a par exemple là devant nous la commune de Loquefrette et un peu plus à gauche, la commune de Pouillé, qui a installé des éoliennes sur les hauteurs de leur commune.
Ah, alors là, voilà donc le fameux Tuchène-Cador, qui signifie la chaise...
Voilà, le Tuchène, c'est une colline, quoi, finalement, une petite colline. Donc des Tuchènes en Bretagne, vous pouvez constater qu'il y en a partout, bien entendu, puisque des collines, c'est colline sur colline.
Ouais.
Et donc ensuite, le Cador, c'est la chaise. Donc ici, on a eu coutume d'appeler ça le trône sur le tertre. Et on pourrait dire simplement la chaise, tout simplement, sur la colline, quoi.
Okay.
Donc c'est un super lieu d'observation. Pour voir vraiment parfaitement à 360 degrés, il faut carrément monter sur cette chaise, justement. C'est ce qu'on va faire ensemble, bien sûr, parce qu'on n'a pas fait cette ascension-là pour ne pas monter sur, sur le Tuchène-Cador.
Ah, vous ne l'avez pas dit, moi.
Bon, donc, il y a un petit peu d'escalade, rassure-toi,
oui,
Denis, tu risques pas...
Non, j'ai pigé, là, ça va, c'est bon. C'est bon. Alors là, on est justement sur du grès principalement.
Voilà, tout à fait. Alors on a du grès mélangé à du quartz parfois. Les pierres ici sont mélangées, elles sont surtout sédimentaires. Ça s'appelle le grès armoricain. Et le grès armoricain, évidemment, c'est ce qu'on trouve en haut du massif armoricain. Et le massif armoricain, il n'est pas que dans les monts d'Arrée, évidemment, puisque c'est le plus grand massif, le plus long massif de France, pratiquement, qui longe une bonne partie de l'Atlantique et pratiquement toute la Manche.
Et c'est aussi pour ça qu'on peut retrouver, on va dire, des tonalités, par exemple, de l'Aubrac, de la Margerie en Lozère, ici, parce qu'on retrouve aussi donc, ces landes, et puis des points communs avec le sous-sol.
La comparaison qu'on fait, nous aussi, c'est avec l'Écosse et l'Irlande, par exemple, puisqu'on dit qu'ici, on est entre l'Irlande et l'Écosse en termes de paysage. Quoi. Quand on est plutôt sur ce versant-ci, donc du côté de l'Ac de Brindis, on va dire plutôt l'Écosse, et versant... Drenex, ça va peut-être être plus ambiance Irlande. Quoi.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'il ferait du whisky en Lozère, vous auriez la comparaison lozérienne plutôt.
Voilà, c'est de là que vient la comparaison, effectivement. Voilà. Ouais. Et par rapport aussi à la musique, évidemment, quoi, puisque on a des bonnes affinités avec nos amis anglo-saxons.
Alors là, on peut imaginer une forêt, il y a combien de temps ici ?
Alors, on peut imaginer, effectivement, ouais, tous les paysages ici. La Bretagne était peuplée de chênes et hêtres. Donc, c'était, en fait, le chêne et le hêtre qui peuplaient toute cette Bretagne. Voilà. Donc, des forêts gigantesques. Mais on s'est aperçu aussi que cette déforestation était raisonnée, mine de rien. Naturellement, l'homme, quand il a déforesté il y a 1000 ans, l'impact sur l'environnement n'a pas été le même que la déforestation qu'on peut entendre aujourd'hui, quoi, évidemment. Puisque c'était une déforestation progressive, la faune, la flore avait quand même un temps d'adaptation, évidemment, à cette grande déforestation.
Il n'y avait pas 7 milliards d'individus sur Terre aussi.
On était moins d'habitants sur Terre, bien évidemment. Puis les pratiques utilisées, ne serait-ce que pour couper un arbre, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a coupé, on a déforesté pendant 1000 ans. Aujourd'hui, on sait qu'on pourrait déforester la Bretagne
en 10 minutes.
En 10 minutes, voilà. Avec les moyens que l'on a. Quoi. Ouais. Voilà. Mais finalement, ces lieux sont peut-être, pour les découvrir aussi, ça peut être bien de venir les découvrir seuls et puis sans causer. Juste en contemplant quoi, les paysages. Et donc le Yonnelaise, si on revient un peu dans l'histoire aussi, on a toujours surnommé ça les portes de l'enfer, parce que justement c'était des lieux qui faisaient peur aux gens. Très peu peuplés, c'était des lieux quand même sauvages, même si ça avait été déjà un petit peu déforesté, on va dire. Et donc on avait peur de s'y promener tout simplement à cheval, en carriole autrefois, parce qu'on avait peur de se faire aussi agresser, et puis on avait peur tout simplement de la vie sauvage, parce qu'on retrouvait un petit peu une ambiance qui fait peur, quoi.
C'était un coin où il y avait les animaux sauvages, il y avait des loups ici. Oui.
Alors ici, évidemment, on a connu tous les animaux. Ah oui. Voilà, tous les animaux qui ont disparu de Bretagne. On a connu les castors qui ont disparu à 1000 ans. Oui. Donc on a la réserve des castors au Venec, donc gérée par Bretagne Vivante, qui justement a réintroduit du castor à la création du parc d'Armorique.
C'est-à-dire qu'ils les ont pris par la peau du cou du côté du Rhône et puis ils les ont mis là.
Voilà, tout à fait. Oui. Donc on est allé les prendre sur le Rhône. On a pris une dizaine de ces spécimens et on les a introduits dans une réserve. D'accord. Et ces castors, aujourd'hui, ne recolonisent pas tous les espaces. Ils restent présents dans la réserve uniquement. Quoi.
Alors, comment fait-on pour garder quand même ce territoire dégagé, ouvert? On voit des plantations, de résineux hein, principalement, parce qu'on sait que...
Ça, c'est le jeu des intrus que vous me faites là.
Alors voilà. Voilà.
Le jeu des intrus, voilà. Alors ces sapins, c'est pas forcément nos amis. Je suis pas non plus anti-sapin, mais en fait, il fallait prendre en compte quand même les caractéristiques de la Bretagne, qui étaient donc peuplées de feuillus. Et en fait, le problème de ces sapins, c'est qu'ils ont en plus été plantés dans des endroits très denses, donc tous collés les uns aux autres. Ce qui veut dire que rien ne peut pousser sous ces sapinières. Ouais. Et donc, vous n'avez plus rien à vivre, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'animaux, il y a quelques oiseaux qui viennent nicher, ouais. Mais c'est très pauvre.
Il y a aussi des végétaux, il faut vraiment se baisser et s'accroupir pour les observer, ce sont les sphaignes. J'en parle parce que avec la formation des tourbières, eh bien, on a les sphaignes qui doivent pousser à peu près de 2 mm par an, grand maximum.
Et on dit que c'est 5 cm sur un siècle.
Ah, ben voilà.
Donc c'est très, très lent. Voilà.
Vous convertissez tout ça et c'est vous qui avez le bon chiffre.
C'est la décomposition.
Alors c'est la décomposition, voilà. C'est ça au fur et à mesure. Et c'est entre autres ça, ces végétaux qui fabriquent de la tourbière.
C'est bien ça, voilà. La tourbière, c'est la décomposition de tout ce qui peuple les tourbières finalement au fil des siècles.
D'accord.
Et donc on a des tourbières plus profondes que d'autres. On a des tourbières qui peuvent atteindre 400 mètres. C'est aussi pour ça qu'on appelait ça parfois les portes de l'enfer, puisque quand des gens s'aventuraient dans des zones où on extrayait la tourbière, on pouvait avoir des mauvaises surprises puisqu'on pouvait se noyer dans les trous où avait été extrait la tourbière l'été. Ouais. C'est-à-dire que l'été, tout s'assèche, il y a beaucoup moins d'eau, donc on extrait. Et l'hiver, en fait, ces trous d'eau en fait, se remplissent avec la pluie. Donc les gens, en plus, les populations locales qui marchaient qu'en sabots et qui ne savaient pas nager, on ne savait pas nager autrefois dans les terres, et ben, c'est des gens disparaissaient dans les tourbières, ils allaient faire une course et on ne les retrouvait jamais.
C'est quand même dans le lieu qui s'appelle les Portes de l'Enfer qu'on a construit cette fameuse centrale expérimentale de Brennilis. Bah oui, c'est comme ça. Claude-Marie Vadreau, d'ailleurs, a écrit un formidable bouquin qui s'appelle La centrale indémontable. Bah ouais, elle n'est pas terminée d'être démontée, ce petit chose expérimentale. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est d'aller dans un village, donc celui de Saint-Rivoal, donc qui est juste à côté, mais qui est blotti dans un creux, à l'abri du vent. Et là, on va rencontrer Laurent Ranoux, qui est un homme qui fait du débardage à cheval, enfin, entre autres, voilà. Et on n'est pas très loin de Saint-Michel-de-Braspard, mais là, donc, on est vraiment à Saint-Rivoal. Et il y a une maison qui s'appelle la maison Yvon Cornec. Pourquoi ?
Eh ben, ce monsieur Cornec, donc Yvon Cornec, installé ici au début du XVIIIe siècle, était paysan, mais était aussi en relation avec des gens qui se sont chargés de défricher le paysage des Monts d'Arrée, ouais. Ce qu'on appelle nous la montagne, alors qui paraît bien modeste par exemple pour un Ariégeois, mais qui n'en est pas moins une montagne puisque gérée comme telle quasiment. Quoi.
Et alors ensuite, qu'est-ce que ça a donné ? C'est-à-dire qu'on l'a défriché pour se nourrir de toute façon ?
C'était de toute façon pour se nourrir, gagner un petit peu de surface sur la lande et cultiver entre autres du blé noir, mais bon, il n'y avait pas que de la propriété en indivis. Ah. Il y avait également des terres partagées où les travaux étaient réalisés en commun, ce qui évidemment a créé des liens particulièrement forts entre les gens déjà à l'époque, puisque pour façonner ce paysage-là, il fallait évidemment un travail de groupe et de gens donc, qui agissaient en nombre, par nécessité. Donc en 1702, la maison qui est datée de 1702, puis voilà, témoigne un petit peu de l'habitat des Monts d'Arrée. Alors là, on peut considérer que M. Cornec était une personne aisée, parce que même sa maison a été couverte d'ardoises, ce qui n'était pas forcément le cas à cette époque. Là, puisque les paysans contemporains d'Yvon Cornec étaient plutôt abrités sous une chaumière couverte de genêt, qui est un peu la plante des Landes locales.
Oui, et puis qui servait d'ailleurs aussi à nourrir les chevaux, parce que dans la jonc, on a pas mal de protéines, donc on broyait cela.
Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la source de protéines, c'est la jonc, une légumineuse, tout simplement, qui nourrit en partie les chevaux. Même si à l'époque d'Yvon Cornec, on a plutôt affaire à d'autres animaux de trait, là je ne peux pas le certifier, mais c'est vrai que le cheval a profité ici de la pousse des Landes. Il y a même encore un outil dans la cour de la maison Cornec qui témoigne de cette utilisation-là, parce que c'est lui-même d'ailleurs le cheval qui actionnait une machine qui allait lui produire son alimentation.
D'accord, c'était pas mal.
Pas mal,
oui. On bouclait la boucle, voilà, au sens
c'était,
premier.
C'était du circuit court.
C'était vraiment du circuit court. Alors justement, vous êtes complètement les héritiers de ce circuit court, parce que comme il en reste quelque chose aujourd'hui, dans ce début du XXIe siècle, là je vois donc une épicerie paysanne. Alors épicerie paysanne, bon, on pense tout de suite à circuit court. Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est surtout des paysans désireux de maintenir ce paysage de qualité et d'avoir une relation avec les gens à qui ils vendent leur production. Ça veut dire du circuit court, mais ça veut dire aussi un engagement moral, je dirais, vis-à-vis du paysage. C'est-à-dire qu'on produit, certes, mais en respectant la ressource locale. Alors ça va des parcelles, évidemment, on produit de l'herbe, c'est un pays d'herbe ici. Ben oui. Mais c'est aussi la valorisation de la lande, vous en parliez à l'instant. On peut imaginer la fabrication de compost à partir de cette lande. Mais c'est aussi toute la zone arborée, les talus, il y a un réseau de talus ici qui est très dense. Et puis justement des paysans qui pour même certains s'impliquent dans la filière énergie bois, très contemporaine. On produit de la plaquette, on produit de la bûche et on assure le chauffage de sa ferme et de ses gîtes ou en bois-bûche de manière plus classique que les habitants de ce territoire qui tirent parti des ressources du bocage. Alors soit sur des parcelles qui leur appartiennent, soit éventuellement commencent sur des parcelles agricoles. Mais maintenir des paysages,
C'est éviter qu'ils se referment aussi.
Le circuit court, c'est aussi de permettre aux paysans de dire à la personne qui achète ces produits, en achetant ces produits-là, vous maintenez aussi un paysage de qualité. Ouais. On peut construire un paysage au travers de ce qu'on a dans son assiette.
C'est ça.
Voilà, donc dès lors que l'on va vers ce type d'agriculture, on fait le lien évident avec un paysage qu'elle a préservé. Alors que ça n'empêche pas de produire.
Alors vous-même aussi, d'ailleurs, vous avez vos chevaux, et vous faites du débardage à cheval, quoi.
Voilà, c'est-à-dire que mon souci a été, là, en l'occurrence, la parcelle dans laquelle on est n'est pas accessible au tracteur. Donc, sans vouloir travailler comme on travaillait autrefois, parce que là n'est pas le propos, je ne peux pas témoigner d'une vie qui n'a pas été la mienne. J'ai malgré tout recours à la traction animale. Pourquoi ? Parce que l'animal, lui, peut intervenir en tout lieu. Ça n'a rien de passéiste, c'est tout simplement rationnel. Il y a une ressource en bois à aller chercher. Seul l'animal permet de le faire. Eh bien, utilisons l'animal.
Alors ici, on n'en est pas, quand on parle de la Bretagne, c'est évidemment pas le territoire le plus boisé, hein, c'est pas là où il y a le plus de forêts. Et puis il y a quand même encore du bocage. Enfin, à cet endroit-là, hein, quand ça n'a pas été remembré comme des fous, il y a encore du bocage. Et là, ça donne une impression quand même de belle densité.
De par le relief, hein, déjà, mais de par, justement, qui dit relief difficile, dit installation de gens en agriculture qui déjà avaient des choses à imaginer. Ouais. Puisque déjà, même dans la pratique agricole, travailler la terre sur ce territoire-là, il y pleut beaucoup, les terres sont relativement froides, les parcelles sont petites, ça voulait dire imaginer, être assez imaginatif au niveau de sa production. Ben voilà, tout ça, ça s'est retrouvé après dans le fait d'imaginer d'autres types de relations avec le consommateur. C'est un peu lié tout ça, parce que c'est une dynamique, quoi.
Laurent Ranou, à la fois, qu'est-ce qui vous rend heureux et qui vous donne de l'espoir parce que là, on imagine ou on réimagine des possibles.
L'espoir, c'est le nombre d'acteurs, de voir des jeunes familles toujours venir s'installer dans les monts d'Arrée avec des projets, pour la plupart, pas seulement une installation passive, hein, c'est vraiment des gens qui ont envie d'être acteurs de ce paysage, de ce territoire, et ça se retrouve au niveau de la petite vie culturelle de la commune, ça se retrouve dans nos paysages, ça se retrouve un peu partout, donc optimiste, ça c'est clair, bah, évidemment conscient des soucis, et... non, pas en marge, certainement pas en marge, mais tout simplement, là au moins, voilà, sur un petit confetti du territoire, la mayonnaise a pris.
Anthony Le Gall, là on a changé de lieu, enfin on est toujours sur ces monts d'Arrée et on est en fait à la source de l'Élorme. C'est intéressant de rappeler que là aussi on est sur un petit château d'eau.
Aux sources de l'Élorme, les sources de l'Élorme, c'est un petit fleuve côtier qui alimente la rade de Bresse, donc ouais. En eau potable. Donc c'est important que dès les sources, évidemment, cette eau soit d'excellente qualité. Et c'est ce qu'on a devant nous, un décor parfait, c'est-à-dire aucune source de pollution.
Oui, mais quand même un petit peu plus bas, et bon, il y a 4 exploitations, et très vite, en fait, ça monte en nitrate.
Alors le problème, c'est évidemment, ici aux sources, on a mis un périmètre de protection, donc qui appartient à la collectivité, c'est aussi propriété donc, du Conseil Général. Et donc en achetant ces terres, ils ont mis un périmètre de protection autour de ces sources. Ici devant nous on voit un champ qui a été donc mis aussi dans le périmètre de protection puisqu'avant c'était un champ cultivé et aujourd'hui on n'a plus le droit de faire du foin.
D'accord.
Et on a devant nous l'herbe fauchée justement.
Donc il y avait du maïs ou du blé, maintenant ça a été transformé en herbe.
Aujourd'hui c'est retour à l'herbe. Donc c'est retour à l'herbe, c'est ce qu'on prône un petit peu dans toutes les zones on va dire à risque, là où il y a des fuites de nitrates évidemment quoi.
Ouais.
Puisque le système herbager on sait qu'il assimile beaucoup les nitrates et ça fait ça protège la zone à partir du moment où il y a de l'herbe. Donc c'est le retour à l'herbe qui est prôné ici dans le parc naturel Jeanne d'Armorique depuis maintenant 40 ans.
Et en fait, dès qu'on descend, le taux de nitrate commence à monter.
Et malheureusement, dès qu'on descend, dès qu'on abandonne cet espace naturel donc sans, non impacté par l'homme,
ouais.
Et ben on arrive très vite à des taux de nitrate qui dépassent même les taux légaux imposés par l'Europe.
Le problème de la qualité de l'eau, on s'en doute bien, parce que donc c'était l'Orne qui coule à nos pieds, va alimenter tout le bassin de Brest. Et alors le paradoxe, c'est que ici, vous avez de l'eau et vous avez eu une des eaux les plus chères d'Europe à payer.
Enfin, la Bretagne, ouais, et surtout la pointe bretonne, le Finistère.
Ah ouais.
Pour un habitant de Brest, le prix est proche de 4 euros le mètre cube
ouais.
d'eau. Donc c'est l'eau la plus chère d'Europe, effectivement. Alors que l'eau ne manque pas en Bretagne. Quoi.
Qu'est-ce que l'on peut faire? Ce système, on le connaît. On a une PAC qui est productiviste. On a la FNSEA qui ne veut surtout pas changer de modèle. Les politiques, à la fois, donnent des subventions à la pollution, donnent aussi des subventions pour dépolluer. Ce système est dingue et ne tient pas.
On peut changer et faire évoluer très vite les pratiques, puisqu'on a pratiqué, comme on fait actuellement, ça s'est passé sur 30 ans. Donc ça a été très vite. Et on sait très bien qu'en 10 ans, on peut aller très vite dans l'autre sens pour faire une agriculture propre et écologique. Moi, je crois aussi que chaque agriculteur peut, tout à chacun, se dire que... On peut être décisionnaire dans nos actes sans écouter aussi la bonne parole d'un politique.
Alors là,
c'est ce qui se passe d'ailleurs ici dans les monts d'Arrée. Les gens qui se sont lancés dans un autre système n'ont pas attendu que les politiques leur disent de se lancer dans un autre système pour qu'ils se lancent dans ce système herbager par exemple. Quoi. Donc les moutons qui viennent ici sur les monts d'Arrée, il y a des transhumances qui sont faites chaque été.
C'est ce qu'on voit là. Enfin, là, voilà. C'est pas la transhumance,
mais enfin, ils sont là devant nous, les moutons.
Ouais.
Et donc, voilà, près des roches, là, comment est-ce que. Bah, c'est très, très joli. On voit les moutons se déplacer dans la lande. Et donc, ces moutons-là, on sait qu'ils vont avoir aucun impact sur l'environnement. Ce sont souvent des agriculteurs qui étaient dans le modèle conventionnel, qui en sont sortis parce qu'ils ne s'en sortaient pas économiquement.
Mm-hmm.
Donc, ils ont décidé de devenir, en fait, économiquement rentables, dans une logique de développement durable, justement.
C'est pas une rivière, je sais pas, vous dites un fleuve ou ici avec les Lornes ou...
Alors effectivement, on appelle souvent rivière toutes les rivières de Bretagne, ouais. Alors que ce sont des petits fleuves côtiers, puisque la définition d'un fleuve, c'est une source qui se jette dans la mer.
Et ça galope, hein.
Et
ça,
donc ça va vite, tout ça, ça galope, ouais, puisque évidemment ici on est qu'à 380 mètres d'altitude, ouais. Mais vous avez beaucoup de pentes, mine de rien, dans les premiers kilomètres du fleuve. Donc on peut dire qu'on est sur un régime torrentiel. Ouais. Évidemment, c'est pas les torrents qu'on va voir en haut des Pyrénées et des Alpes, mais vous allez avoir quand même des fortes pentes. Ce qui fait aussi donc le plaisir de la truite Fario. La truite Fario adore les eaux très oxygénées avec beaucoup de torrents. Dans cet endroit-là, vous avez un peu de sable, comme un petit gravier épais. Et ce petit gravier, en fait, est le lieu d'accueil de la truite. C'est un milieu protégé.
Anthony, on va se quitter. Et là, c'est extraordinaire parce que c'est un jour sans eau. Hein.
Alors aujourd'hui, grand beau temps, grand beau temps, grand soleil. C'est vrai que on aime bien les monts d'Arrée sous la pluie aussi. On aime bien les monts d'Arrée sous le soleil. Ouais. Et on les adore aussi sous la neige. Donc il faut savoir que parfois, un mois l'hiver, ici, tout est blanc. Tout le paysage est blanc autour de nous. Et on peut s'amuser au même jeu que les montagnards, c'est-à-dire à prendre la luge ou prendre les skis de fond et puis s'amuser comme il faut.
Bon, bah écoutez, on viendra passer notre chamois d'or ici, hein, dans les monts d'Arrée. Enfin, peut-être pas quand même. Voilà. On fera peut-être un peu ski de fond. Voilà. Ça va être possible.
Un peu de ski de fond, c'est possible. Ouais. Surtout en forêt du Crâneau.
Merci à Anthony Le Gall de cette maison de la rivière, donc à Cizun, et puis à Laurent Ranou avec les habitants de Saint-Rivoil. Possibilité pour vous, hein, vous laissez des messages, vous conversez sur le site franceinter.fr, CO2 mon amour. Merci à Christophe Imbert qui a donc colorisé ce reportage et réalisé cette émission. À Stéphane Combe, à Frédéric Danhé, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, ce sera la fête de la nature, mais oui, partout en France. Et je vous emmènerai découvrir la nuit en montagne. On aime bien faire ça avec Christian Couloumi. L'Atu du Mont-Pilou, ce sera demain à 19h54, toujours sur France Inter. Le site, vous les connaissez.